Une première lecture pour introduire ces moments, Philippiens chapitre 4 et verset 10. Il y a de quelque chose d'extraordinaire dans la Bible, c'est que Dieu a inspiré les hommes qui ont servi à l'écrire, mais il a utilisé des moyens humains. À l'époque, peut-être il y avait une plume, il écrivait avec la plume. Il n'y avait pas de stylo bic. Et Dieu n'a pas fait apparaître la Bible comme ça d'un coup, d'elle-même, par... J'allais dire par magie, ou comme ça. Mais Dieu l'a laissé écrire avec des moyens humains. Et si on appelle ça une épître, c'est parce que c'est une lettre. La parole de Dieu, dans Philippiens, chapitre 4, verset 10, c'est Paul qui écrit aux Philippiens et il leur écrit une lettre. Il leur répond à quelque chose qu'ils ont fait. Il va dire ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur » de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire, au siècle des siècles, amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent, et tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ sois avec nous tous. Amen. Amen. C'est extraordinaire, à chaque fois que je lis la fin d'une épître ou le commencement, de voir la personne qui s'adresse à quelqu'un, quelquefois il dit le nom, et qui termine en disant, voilà, je vous salue, ou nous aujourd'hui on dirait quoi, je t'embrasse affectueusement, comment on dit, hein, je ne sais pas. Et de voir à l'époque que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, amen, tous les saints vous saluent, je vous salue aussi, etc. Il est émouvant de voir ces choses qui nous sont restées jusqu'au bout, mais au-delà de l'émotion qu'il y a derrière une lettre, nous avons bien compris que la parole de Dieu est sainte. C'est la Sainte Bible, comme on le dit. C'est vraiment Dieu qui nous parle au travers de l'apôtre Paul dans ce cas-là. Et il va dire, dans une situation particulière, après avoir reçu de l'argent, en tout cas ce qu'il lui fallait pour vivre, de la part des Philippiens, des habitants de Philippe, de l'église de Philippe, il va dire « Merci, j'éprouve une grande joie de ce que vous avez fait de la part du Seigneur, d'avoir pourvu à mes besoins dans ce qui manquait. » Il va préciser, c'est pas que je manquais de quelque chose ou que j'avais besoin, en tout cas, j'attendais à ce que vous le fassiez pour moi. Il dit « Mais je suis heureux de voir que dans votre cœur, il y a un fruit. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a fait au travers de vous qui vous a poussé à penser à moi et à prendre soin de moi, à pourvoir à mes besoins. » On est heureux de pouvoir aider monsieur et madame Bordeneuve lorsqu'ils viennent, qu'ils partagent un fardeau qu'ils ont et de pouvoir les envoyer aussi avec ce qu'il faut pour bénir les frères et sœurs qui sont loin au Niger et partout où le Seigneur les envoie. Il est vraiment touchant dans notre cœur aussi d'entendre des églises lorsque Jean-Son est allé au Burundi. Quand de la part de l'Église, il a pu amener ou donner des bonnes nouvelles, apporter ce qu'il fallait pour édifier l'Église, la construire physiquement. Les immeubles et puis tant d'autres choses peut-être qui ont été faites. Et on n'est pas là pour faire une liste, pour voir ce qu'on a fait. Mais au-delà de ce qu'on est heureux d'avoir fait pour les gens, on est heureux de le faire pour le Seigneur. Vous êtes d'accord? C'est d'abord pour le Seigneur qu'on fait ces choses. Parce qu'on sait que tout l'argent du monde ne pourrait pas combler un cœur. C'est parce que le Seigneur a sauvé ces personnes. Et bien, dans leur cœur, il va y avoir la joie. Mais nous-mêmes, on veut participer à cette joie. On veut participer à cette œuvre pour le salut de quiconque croit. Paul va dire quelque chose de très important, il va dire pour lui-même, pour sa part, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouverai peut-être un jour. » C'est ça? Non? j'ai appris à être content le jour où j'aurai tout ce qu'il me faut. Non. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve aujourd'hui. Et il dit, et il précise, dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Quand j'ai tout ce qu'il faut, mais aussi quand je manque. Quand je suis rassasié, mais aussi quand j'ai faim. Au moment présent, qu'importe ma situation, j'ai appris à être content. Et c'est au-delà de tout l'argent qu'on pourrait me donner, c'est au-delà de toute la nourriture qu'on pourrait me donner, j'ai quelque chose dans ma vie qui fait que je suis heureux et content, le contentement, par-dessus tout, malgré toutes les circonstances et les situations. Paul s'est retrouvé en prison, Paul s'est retrouvé enchaîné, Paul s'est retrouvé battu, presque moribond, il a été laissé plusieurs fois moribond, on l'a laissé pour mort, combien de fois battu, fouetté, etc. On l'a poursuivi, il a dû fuir, même la nature s'est déchaînée contre lui, puisqu'à un moment il était emmené loin à Rome, et il était là, il y a eu la tempête qui s'est levée, pour sa vie c'était presque la fin, mais il a une parole de Dieu, il a compté sur son Seigneur, il était content, même dans la tempête je crois, parce qu'il avait quelqu'un qui veillait sur lui, il avait une assurance, au point qu'il a pu dire, si vous restez avec moi, vous aussi vous serez sauvés, parce que Dieu m'a parlé. Un ange est venu me parler cette nuit-là. Paul avait quelque chose de particulier qui faisait qu'il pouvait être content dans toutes les situations. La clé, c'est que Paul était riche. Il y en a qui disent, mais non, il n'était pas riche. Il vient de dire qu'il était dans la disette. Paul était riche d'une richesse que le monde ne connaît pas. Paul était riche de quoi ? Il était riche de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Vous vous souvenez de cette parole ? Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul était riche de la vie de Jésus-Christ en lui. Il avait une richesse que le monde ne connaît pas. Il avait quelque chose qui comblait son cœur même quand il avait faim, même quand il avait peut-être froid ou chaud. On est content d'avoir la ventilation, d'avoir le chauffage quand il fait froid, la clim quand il fait chaud, et c'est une grâce que Dieu nous fait, et merci Seigneur. Mais lui, il avait quelque chose que même quand il faisait froid, même quand il faisait chaud, même quand il avait faim, même quand il avait bien mangé, il était content. Ça ne dépendait pas du tout de toutes ces choses-là. Et parce que ces personnes, ces Philippiens, ont pourvu à son besoin à lui, il n'est pas parlé d'offrande ou de dîme là, parce qu'ils ont pensé à lui personnellement. Eh bien, il dit, je sais que puisqu'il y a ce fruit dans vos cœurs, que vous avez de la générosité, de la libéralité, parce que vous pensez aux autres, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce n'est pas le cadre là de la dîme ou de l'offrande du tout. C'est une question d'être concerné, de se sentir concerné par le prochain, par le bien-être, pour le Seigneur. Tout ça pour le Seigneur. La vraie richesse qu'il avait, c'est la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle. La vraie richesse, je l'ai dit, c'est pas l'argent, c'est d'avoir la vie de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle ? Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 2, je vous le lis, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce qu'on a vu de nos yeux, ce qu'on a contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et on l'a vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Jean, lorsqu'il écrit la première épître, la première lettre qui nous est retranscrite dans la parole de Dieu, il va dire, on a vu la vie, on a entendu la vie, on a touché les choses qui concernaient la vie, et ce qu'on a vu, entendu, touché, ce qu'on a vécu personnellement, c'est ce qu'on vous témoigne, et c'est la vie éternelle, c'est ce qu'on vous annonce. La vie éternelle était auprès du Père, et elle nous a été manifestée. Alors qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Eh bien la vie éternelle, c'est une vie pleine de pardon, c'est une vie pleine de compassion, une vie pleine d'amour, une vie de communion avec Dieu, mais aussi une vie de communion fraternelle. C'est une vie où Dieu peut opérer des miracles. La vie éternelle, c'est une vie où Dieu peut opérer des guérisons. Où Dieu aussi nous annonce la résurrection des morts. Vous croyez qu'on va ressusciter un jour ou c'est juste une fable ? Vous savez, hier j'étais à discuter avec un pasteur, il s'est retrouvé autour d'un conseil d'administration, dans une situation difficile, et pendant qu'il gérait des affaires, il y a un frère qui s'est exclamé, « Mais vous croyez à la guérison divine, vous ?» Et ce frère pasteur a dit, « Non, j'y crois pas. » Juste pour le provoquer. Bien sûr qu'on y croit. Quelle question ? Vous y croyez, vous ? Que Dieu guérit ? Monsieur Olé y croit. Sinon, il n'aurait pas prié pour la sœur. Vous croyez que Thérèse peut être fortifiée dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans tout son être? Et vous, vous croyez que ce matin, vous pouvez être encouragé dans tous les domaines de votre vie? La vie éternelle, c'est une vie de meilleure qualité que celle du monde. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie éternelle, c'est une vie où on est pardonné, mais on pardonne aussi. La vie de Dieu, c'est une vie où on reçoit la compassion de Dieu, on vit la compassion de Dieu, mais aussi nous-mêmes, on donne de la compassion, on est plein de compassion pour les autres. La vie éternelle, celle que Paul avait, c'est une vie, je l'ai noté, où il y a de l'amour, on reçoit l'amour, on comprend l'amour de Dieu de plus en plus, et on arrive du coup à aimer les autres. On a une communion avec Dieu, une communion fraternelle qui en découle. Il y a une vie de miracle. Qui a vécu ou a vu un miracle, déjà? Et j'espère qu'on pourra tous un jour lever la main. Tous. Moi, j'ai vu un miracle dans ma vie, j'ai vécu, j'en ai vu, et je suis pas meilleur. J'étais pas juste là au bon moment, au bon jour, etc. C'est ce que Dieu veut répandre, et Dieu veut que nous vivions, mais il veut qu'on ait un cœur ouvert pour qu'il puisse déverser sa vie, et sa vie en abondance. Des guérisons, et l'assurance qu'un jour, nous ressusciterons la vie éternelle. Il est dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est quoi ? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus qui parle de lui-même. Il dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître son Fils, Jésus-Christ. Et pour connaître quelqu'un, j'aimerais nous rappeler qu'il faut d'abord le rencontrer. Vous êtes d'accord avec moi? La vie éternelle, c'est d'abord une rencontre avec Jésus-Christ. Ça commence comme ça, mais ce n'est pas la fin. C'est des rencontres autant qu'on peut en avoir. Est-ce que Monsieur de Dieu aime rencontrer le Seigneur Jésus dans l'intimité de sa chambre ou de sa vie? Tout simplement, tous les jours, quotidiennement, parce que Jésus n'est jamais submergé par les rendez-vous. On a de la place, chacun, auprès de lui, tous les jours, 24 heures sur 24. Jour comme nuit, ses bureaux ne sont jamais fermés. Important de s'en souvenir. Jésus est disponible, et nous, sommes-nous disposés et disponibles pour le Seigneur Jésus qui voudrait un entretien avec nous pour qu'il se fasse connaître? Plus je connais Jésus-Christ, plus cette vie jaillit en moi, et tous ces fruits, tous ces résultats, toutes ces conséquences se font sentir et grandissent dans ma vie. Une rencontre avec Dieu. Connaître quelqu'un, c'est le rencontrer. Si vous venez vers moi et qu'on discute, on se présente et qu'on se dit au revoir, pouvez-vous dire que vous me connaissez? Je l'ai vu, on s'est salué une fois, mais je ne le connais pas vraiment. Si jamais vous m'avez juste écouté sur Internet ou juste, je ne sais pas, entendu quelque chose sur moi, est-ce que vous me connaissez? Non plus. Il ne suffit pas de connaître des choses sur Jésus, il faut connaître Jésus. Et c'est ça le miracle extraordinaire, c'est que oui, Jésus, même s'il est Dieu, même s'il est saint, pur, sans tache, nous, des êtres souillés par notre péché, mais lavés par son sang, nous pouvons avoir une intimité avec lui, avec le Père, autant qu'on veut. Sans honte, on peut se présenter devant le trône de Dieu, le trône de la grâce. Et il faut le rencontrer autant que faire se peut, autant que c'est possible, parce que lui, il est toujours prêt à nous parler, à nous reprendre pour nous éviter des égarements, des écueils, mais aussi à nous parler de choses secrètes. Vous savez que Dieu veut confier ses secrets aux hommes? Il y a des choses que le monde ne peut pas recevoir et que Dieu ne dit qu'à ses enfants. Vous savez ça? Non? Ah bon? Je sais pas. Non, mais vous comprenez que en tant qu'enfant de Dieu, on a un privilège extraordinaire? On peut comprendre les choses spirituelles qui sont cachées aux hommes pécheurs, aux hommes sans Dieu, aux femmes sans le Seigneur Jésus, qui ne le connaissent pas, car il faut le Saint-Esprit pour comprendre les choses qu'il a inspirées. C'est lui, le pédagogue, le tuteur, c'est lui, celui qui est près de nous pour nous enseigner et nous faire comprendre toutes ces choses. Oui, l'intellectuel peut quand même arriver à me faire comprendre certaines choses, mais comment arriver à les vivre et à les connaître personnellement? Pas juste connaître avec mon cerveau, mais connaître en expérience, eh bien c'est le Saint-Esprit et que lui. La vie éternelle, c'est une vie d'une qualité supérieure qui s'acquiert et qui se manifeste lorsque je connais le Seigneur Jésus et que je connais son Père. Pour connaître Dieu et pour connaître son Fils, ça commence par la parole de Dieu. Une parole lue, non pas avec un jugement, mais avec la foi. Je suis prêt à croire ce qui est écrit, car je reconnais que c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un dit « je n'ai pas encore la foi », eh bien dites au Seigneur « viens, viens me rencontrer, si tu existes vraiment, viens toucher mon cœur, je suis prêt parce que j'ai besoin d'une autre vie, Seigneur révèle-toi à moi ». Et ouvrez la parole de Dieu, commencez à lire avec un cœur bien disposé et vous verrez que Dieu se fera connaître à vous. Qui donne la vie éternelle ? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Autre texte, Jean 5, 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, ce n'est pas des efforts, ce n'est pas une statue, ce n'est pas tout cela. Cette semaine, j'ai rencontré un homme qui se disait guérisseur et je crois qu'il a fait ces choses-là puisqu'il disait que tous les soirs, Jésus le rencontrait avec des morts. J'ai dit, je vous le dis, ce n'est pas Jésus-Christ que vous rencontrez. Mais si, j'ai dit non, c'est pas Jésus-Christ. Mais il avait une grande lumière. J'ai dit oui, mais c'est pas Jésus-Christ. S'il y avait des morts avec lui comme ça, il disait des choses que vous ne compreniez pas et des manifestations comme cela, c'est pas Jésus-Christ. Et comment vous le savez ? Je dis parce que si Jésus-Christ venait vous rencontrer, il vous aurait dit que dans votre caravane, il y a des photos pornographiques. Pas vrai ? Je dis vous voyez ? J'ai pris une photo, j'ai dit si vraiment Jésus venait, il vous aurait montré ça. Ah bon, mais moi je crois que c'est pas grave, tout le monde le fait. J'ai dit ben ouais. C'est pour ça que tout le monde n'est pas sauvé. J'ai dit, mais voyez, Dieu vous l'aurait dit. Et puis juste après, j'ai dit, mais voyez. Et il m'insiste, il me dit, mais non, mais ça c'est rien, c'est pour blaguer. Puis c'était une carte postale avec des blagues. Et j'ai dit, mais écoutez, ça continue. Regardez cette statuette de femme nue. C'est pareil, Jésus, il ne peut pas venir comme ça et ne pas vous le dire, ce n'est pas possible. S'il était venu vous rencontrer, il vous l'aurait au moins dit ça, c'est sûr. Et cet homme, ah bon, vous croyez. Et puis après, on est parti sur la parole de Dieu. Et comment être sauvé ? Vous lisez la Bible ? Non. Alors comment ça, vous savez que si c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu ? Regardez, et j'ai commencé à prendre les textes qui parlent de la voyance, de l'astrologie, ceux qui évoquent les morts, etc. Il dit, mais pourtant, je guéris les personnes. Je dis, mais c'est pas vous qui guérissez. J'ai dit, c'est une puissance maléfique derrière qui fait des miracles mensongers. Il dit, le problème, c'est que maintenant, la maladie qui était sur les gens, elle est sur vous, puisque cet homme est dans des soucis monstres, et il venait nous demander de prier pour lui, parce que lui-même ne s'en sortait pas. J'ai dit, vous voyez bien, c'est quelque chose de diabolique derrière. Détestez ces choses, rejetez-les, parce qu'il y a un piège derrière. Vous savez, Satan, il était appelé Lucifer, en ange de lumière, il se déguise, il fait semblant, il se fait passer pour la lumière, mais ce n'était pas Jésus, et ce n'était pas des morts, c'était toutes des choses démoniaques. Ah d'accord, on a pu prier avec lui. Et je crois que le Seigneur va le bénir s'il persiste dans ces voies-là. Qui donne la vie ? C'est le Seigneur Jésus. Alors comment recevoir la vie éternelle ? La première chose, Jésus a dit dans Jean 3, 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, donc Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » La première chose, comment obtenir la vie éternelle, recevoir cette vie éternelle ? Eh bien, il faut croire. Croire en Jésus-Christ, croire que Dieu l'a envoyé pour expier nos péchés, croire qu'il fallait que Jésus soit élevé sur le bois de la croix, qu'il soit crucifié, qu'il souffrit pour nos péchés, à cause de notre faute. Oui, c'est à cause de moi que Jésus est mort, c'est à cause de vous, c'est à cause de toute l'humanité. Et ce qu'il a fait sur la croix, même si je n'existais pas parce que j'étais pas encore né, eh bien c'était déjà pour moi parce que toute l'humanité est englobée dans l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et il nous faut croire. Le seul moyen, c'est de croire, non pas avec un cerveau simplement, ça vient, je crois que Dieu éclaire notre cerveau, notre intelligence, et il la renouvelle pour qu'on arrive à discerner ces choses et à les comprendre, mais aussi et surtout avec notre cœur. Dieu ne veut pas juste une formule mathématique pour nous prouver qu'il existe. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs, il aurait pu. S'il y a un bon mathématicien, c'est Dieu. Vous ne croyez pas ? Avec toutes les lois qu'il a inventées, pour l'attraction terrestre, pour toutes ces choses, le soleil, le soleil qui tourne autour de la Terre. Vous voyez comme j'ai... Moi, je suis juste... Non, la Terre qui tourne autour du soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre, etc. Et tout est millimétré, tout est bien calculé. S'il y en a un qui aurait pu nous prouver par une formule mathématique ou scientifique, tout ce que vous voulez, et bien qu'il existait, c'est Dieu. Et je crois qu'il l'a fait en plus, puisque toute la nature nous prouve qu'il est là et qu'il contrôle toutes choses. Mais il nous faut croire, et Dieu forcera jamais personne à croire, il nous faut croire personnellement, décider de croire. Deuxième chose, il nous faut demander. Il est dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. C'était Jean 5, 39 et 40. Il est dit qu'on peut sonder les Écritures, qu'on peut étudier une religion, qu'on peut étudier une manière de fonctionner, une déontologie chrétienne, etc. Mais que, au-delà de tout ça, ce qu'il faut, c'est venir à Jésus-Christ pour lui demander pardon, premièrement. Venir à Jésus-Christ pour demander, mais venir à Jésus-Christ pour se convertir. L'important, c'est de se convertir. C'est-à-dire, mais premièrement, de se repentir, demander pardon pour ses péchés, mais aussi s'engager dans une marche avec lui, et lui étant le guide. C'est pas moi. Bien des gens s'engagent par les eaux du baptême pour que Dieu assure derrière eux toutes leurs erreurs, il les récupère, et tous les pièges, il les fait éviter, etc., comme un copilote. C'est pas ça. Jésus-Christ n'est pas un copilote. Jésus-Christ est celui qui conduit. C'est lui qui doit être au volant. Et nous, on fait que lui faire confiance. On peut même dormir sur notre fauteuil. C'est une image, bien sûr. Ma femme, elle aime pas dormir quand je conduis, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Mais il faut vraiment venir à Jésus-Christ. Les Écritures que vous sondez, il parlait à des religieux, à des personnes, peut-être des scribes, des pharisiens, des personnes qui scrutaient les Écritures. Il dit, mais c'est elle qui rend témoignage de moi? Et vous voulez pas. Vous voulez pas. Et oui, c'est bien de croire, mais il faut vouloir aussi. Pour demander et pour se décider, s'engager. C'est ça. Et puis, troisièmement, ça a été dit dans les chants et je suis content. Pas du contentement, je suis heureux, je voudrais dire. Troisièmement, premièrement, croire, vouloir, mais aussi pratiquer. Parce qu'une fois que je me suis engagé, eh bien, faut tenir son engagement. Faut mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais lire un texte, encore qu'on va prendre ensemble, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée 6, 17. Je me suis réveillé cette nuit, à 3h30, avec cette phrase, « Ah, si j'étais riche !» Ça vous arrive jamais d'avoir des pensées bizarres ou... Ah, si j'étais riche. Vous l'avez jamais dit dans votre vie? Peut-être jamais dit? Au moins entendu. Vous avez entendu quelqu'un qui l'a dit? Dans votre vie, je parle peut-être. Non, vous êtes spirituel quand même. Mais à part ça, vous avez jamais dit, ah, si j'avais un peu plus d'argent, si j'étais riche, je ferais ci, je ferais ça. Je sais pas pourquoi, à 3h du matin, 3h30, je me suis réveillé, ah, si j'étais riche. Et avec tout un plan pour la prédication ce matin. Et c'est le titre que j'ai donné au message. Vous me pardonnerez? Ah, si j'étais riche. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir la vie éternelle. Mais là, il est dit que quand tu es riche, il nous faut, quand nous sommes riches, nous devons veiller à la manière dont on gère cet argent et pouvoir, avec cet argent, faire du bien, être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de s'emparer de la vie éternelle. Et il n'est pas parlé de l'héritage qui sera donné dans le ciel, il est parlé de la vie éternelle sur cette terre. Qui sont les riches? Ça vous avez jamais été écœuré par les personnes riches des fois? Vous avez vu tout le monde... Qu'est-ce qui vous a écœuré? Moi, j'ai noté quelques petites choses. Il y a des choses qui, c'est vrai, qui m'écœurent. Un Bourgogne, un vin de Bourgogne, 12 bouteilles, 199 735 euros. 12 bouteilles de Bourgogne. 199 735 euros, c'est ce qui a été vendu il y a 2 ans. Des mégots de cigarettes de Star, vendus 500 euros. un tableau à 68 millions d'euros, des chaussures à 2000 euros, passé, hein, parce que là j'ai pris des bas prix, parce qu'apparemment, je suis pas dans le coup. Non, les miennes ne font pas 2000 euros, rassurez-vous. Mais vous voyez, il y a des choses qui m'écœurent un peu. Hein. Ah, si j'étais riche. Qu'est-ce qui vous écœure? Donnez-moi un exemple. Ah, si j'étais riche, je ne ferais pas comme eux. Si j'étais riche. On a toujours entendu les gens se plaindre de ne pas être riche. On n'a jamais entendu des gens se plaindre de ne pas être pauvre. C'est vrai. On se plaint toujours de ne pas être riche. On se plaint de notre pauvreté. On se plaint beaucoup de ce qu'il nous manque. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut arriver, par la grâce de Dieu, comme Paul, à dire « je suis content dans l'état où je me trouve ». Et c'est un peu ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, apprendre à être content dans l'état où on se trouve. Ah, si j'étais pauvre, ça n'existe pas, c'est si j'étais riche. Un jour, j'ai entendu ça, je vais vous le lire, et vous allez voir. Quelqu'un parle des riches et dit « les riches sont tellement riches qu'ils vont tous à l'école pour faire des études et laissent leurs parents survenir seuls à leurs besoins. Les riches, ils ont tous des logements. Ils sont tellement riches qu'ils ont même des logements pour leurs voitures, qu'ils appellent garage. Ils sont tellement riches qu'ils ont tellement d'affaires que le garage est vide de voitures mais rempli d'affaires et ils sont obligés de faire un abri pour la voiture. Les riches ont tellement d'espace qu'ils ont une chambre pour les gens qui ne vivent pas dans la maison. Ils appellent ça une chambre d'amis. Les riches ne sont pas contents lorsque le chauffage ou la climatisation est en panne. Les riches ne se déplacent plus si la voiture est en panne ou s'il n'y a plus de place pour se garer à côté de là où ils veulent aller. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est hors contexte. Les femmes riches ont un énorme souci. Tous les jours, elles se tiennent devant leur garde-robe et elles disent « Vous connaissez des riches, hein ?» Les hommes riches, eux, ont tous des téléphones portables qui marchent, mais ils en changent quand même. Quand un nouveau portable sort, le sien commence à avoir des soucis. Et une pensée bizarre lui vient, et s'il m'échappait des mains? Les riches peuvent s'absenter 5 semaines par an tout en touchant leur salaire. Ils appellent ça des vacances. Les riches achètent de l'eau en bouteille qui coûte 1000 fois plus cher que celle qui est au robinet, juste parce qu'elle est meilleure. Les riches prennent de l'eau potable pour arroser les plantes et la pelouse. Les riches ont même de l'eau potable pour les toilettes, alors que des gens meurent de soif. Vous avez compris? Le fait est que ce texte, c'est pas pour les autres. Dit aux riches de ce présent siècle, d'eux. Et c'est, je pense, je peux le dire, sauf exception, pardonnez-moi, si vous êtes pauvre, dites-le nous, on va partager, on va s'appliquer et on le fait. Il y a une banque, en tout cas une armoire où on se réunit pour faire une boîte de conserve en plus et on partage à ceux qui n'en ont pas. Des dizaines de personnes peuvent en bénéficier, ça se fait discrètement par pudeur et par respect. Mais les riches, c'est chacun d'entre nous en fait. Mais on n'est jamais riche. Il n'y en a qu'un qui ne peut pas dire « il y a plus riche que moi, c'est Bill Gates ». C'est vrai, c'est le seul. Sur toute la planète, on a toujours plus riche que nous. Alors on dit, si j'étais riche, ah, si j'avais plus, ah, s'il ne me manquait pas ça, il me manque si, etc. On est tous riches. Selon des études, en Haute-Garonne, le salaire moyen, actuellement, c'est 1494 euros. Alors vous êtes peut-être un peu au-dessus, un peu en dessous. 1494 euros et 1517 euros par ménage. Donc ça, c'est le salaire moyen. Bien sûr, il y a moins et il y a plus. Ça ne prend pas en compte la gratuité des soins et des médicaments qu'on peut bénéficier, ça ne prend pas en compte les indemnités journalières qu'on peut avoir au travail, et ça ne prend pas en compte les avantages attribués à chaque Français. Mais il faut réaliser qu'on est quand même classé 16e pays au monde, les plus riches, où on a le plus d'argent. Vous allez dire, oui, mais il y a le coût de la vie qui est différent. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. On n'est pas plus cher, proportionnellement parlant, on fait partie des 10% les plus riches de toute la planète en France. 10%. Et même si je ne touche pas beaucoup, il y a la sécurité sociale, il y a toutes sortes de choses dont on se plaint, qu'on exige, qu'on voit comme un droit, et qu'en fait, je le crois, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. On ne devrait pas trop se plaindre. Selon une étude aussi, vous savez qu'il y en a plusieurs, hein, et elles sont toutes à peu près les mêmes, et il y a des différences, mais la France est a été élu le pays où il fait le plus bon vivre. Et pourtant, les critères sélectionnés, c'est la santé. Donc, la liberté, la sécurité et risques, la culture et les loisirs. Donc, par rapport à la santé, la liberté, la sécurité et les risques, on est au top. Il n'y a pas mieux sur la planète Terre. Culture et loisirs, on a 98%. On a 98 sur 100. Environnement, 94 sur 100. Économie, 89 sur 100. Climat, 80 sur 100. Infrastructure, donc hôpitaux, police, etc., 77 sur 100. Coût de la vie, 62 sur 100. Et note globale, 87 sur 100. On est dans le pays qui est jugé le plus bon à vivre sur toute la planète par plusieurs études, et dans les 5 premiers par quasiment toutes les études du monde entier. Et on n'est pas riche, à nos yeux. Ah, si j'étais riche! C'est à nous que ça s'adresse, ça. Dans tous les comparatifs, la France est dans les 20 premiers pays où on touche le mieux, voire les 10 premiers. Souvent dans les 10 premiers et tout le temps dans les 20 premiers sur 235 États, reconnus ou non par l'ONU, et sur 162 États qui sont vraiment pris en compte comme étant classiques. Le Burundi est classé dernier sur 162. Sur un classement. Il touche apparemment le salaire moyen. Le revenu moyen d'une personne au Burundi ou d'un ménage, on va dire, c'est 20 euros par mois. Et je crois qu'on est au-dessus de la moyenne, parce que ça, c'est la moyenne. Il y a des gens qui touchent des millions et il y a des gens qui touchent rien du tout au Burundi. Donc, on est dans les 10% des gens les plus riches de la planète. Je vais faire un test pour vous montrer que vous êtes riche. Qui a déjà acheté une nouvelle paire de chaussures ou des nouveaux vêtements alors qu'il en avait déjà ? Qui a changé de voiture alors que la première roulait encore ? Qui a changé de portable alors que l'ancien fonctionnait toujours ? Qui a déjà jeté de la nourriture car la date était dépassée d'un jour ? Vous allez dire, heureusement. Eh bien, il y a des pays où ça serait passé de 3 mois, je vous assure qu'on entendrait. Qui a déjà remplacé sa télévision juste parce que ce n'était pas un écran plat ? Je veux le voir, levez la main. Ou parce que la TNT ne passait pas. Qui a des vêtements qu'il ne met jamais dans sa garde-robe? Quasiment tout le monde. Qui a déjà mis au moins 50 euros dans les cadeaux de Noël? Au moins. Eh oui. Eh bien ça, c'est vraiment un signe qu'on est riche. Je vous assure. Vous dites, mais tu comprends pas ma situation. Je vous promets que par rapport au monde entier, on est riche. Et nous, quand on dit, mais ils sont fous d'acheter 12 bouteilles à 199 735 euros, j'aurais mis 700 000. Non mais, quand nous on voit cette extravagance d'un côté, il y a beaucoup de pays qui regardent la France et disent, mais ils mettent de l'eau potable dans leur pelouse, mais ils sont fous. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils jettent leur assiette. Moi, mon assiette, je la jette aux poules. Je dis, ça fait peine que des gens, c'est vrai, ils meurent de faim. Il est quand même écrit que tout nous est donné pour que nous en jouissions. On n'a pas culpabilisé, c'est pas ce que je veux faire ce matin. Mais pour nous montrer quand même qu'on est riche, matériellement parlant. Mais sommes-nous riches, spirituellement ? Parce que si on était vraiment riche de la vie éternelle, pas un peu de vie éternelle, pas juste ce qu'il faut pour être sauvé, pas juste de conscience qui me rappelle à l'ordre quand je m'égare, ou qui me rappelle pour pas que je reste dans mon péché, mais riche de la vie éternelle, moi j'ai besoin d'être plus riche, je confesse. J'ai besoin d'être plus riche. Quand on est riche de la vie éternelle, on est content dans l'état où on se trouve, et que le portable, il fasse que téléphoner, c'est pas grave. Et moi le premier, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, Jérémy, tu devrais tous les jours rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il te donne. Je sais qu'il y a des exceptions parmi nous, j'en fais pas une généralité pour 100% des personnes, mais la plupart, on peut se reconnaître quand même dans ces choses. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, on va le lire. Matthieu 25, 31. Jésus nous demande de faire quelque chose. Et il nous avertit si nous passons à côté de ce commandement. On a chanté. Seigneur, je veux suivre tes commandements. Ils sont une bénédiction pour moi. Il est dit donc, Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. » J'ai dit accueilli, mais c'est recueilli. « J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Regardez la suite. « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. » J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ayant soif ou étranger, ou nu ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a la vie éternelle ici-bas qui se manifeste par cette générosité, cette libéralité, mais il y a aussi cette vie éternelle qu'il nous faut être sûr d'avoir, d'acquérir, non pas par nos mérites, certes, tout est grâce, mais parce qu'on aura laissé le Seigneur faire jaillir ces choses de nos vies, parce qu'on aura ouvert nos cœurs pour qu'il puisse les travailler et faire de nous des âmes généreuses. Et je ne parle pas de la dîme et de l'offrande. Je ne parle pas du tout de ça, je parle du soin qu'on prend envers l'étranger, envers celui qui a faim, celui qui a soif, etc. On vient de le lire. On parle souvent de Sodome et Gomorre. On dit le péché de Sodome et Gomorre. C'est quoi de Sodome, c'est quoi ? L'homosexualité. Regardez avec moi dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont donc devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Je le relis. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, et elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Et je crois que oui, il y avait de l'homosexualité à Sodome. Oui, Dieu a puni ce péché. Oui, Dieu est contre l'homosexualité. Il aime l'homosexuel pour le sauver, le tirer de là. Mais il est contre cette chose-là. Mais au-delà de ça, le péché de Sodome qui l'a rendue hautaine et orgueilleuse et qui a fait qu'elle est tombée dans toutes ces choses abominables, c'est d'abord qu'elle est restée orgueilleuse et qu'elle a méprisé le pauvre et l'indigent. Ça va ? Je ne fais pas peur. Tous vous êtes là, dubitatifs. Il y a, c'est confirmé dans Romains 1, 28, je vous le lis, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens répouvré pour commettre des choses indignes. Comme ils ont négligé de connaître Dieu, et comme nous pouvons négliger de nous approcher de Dieu pour le connaître de plus en plus, pour que nous puissions être généreux envers le malheureux, envers l'indigent, avoir le même cœur que Jésus-Christ avait sur la terre lorsqu'il a multiplié le pain. Si ce n'est pas du social, certes, c'est pas que du social, il y a une vérité spirituelle, mais il y avait quand même des hommes, des femmes, des enfants qui avaient faim, et Jésus leur a donné à manger. Vous êtes d'accord avec moi, jusque-là ? Et de la même manière, Dieu nous appelle nous-mêmes à pouvoir être sensibles au Saint-Esprit qui pourrait nous dire, tu sais, regarde, telle personne est nouvelle, va vers lui. Telle personne sont nouvelles, va vers eux, va vers elles. Accueille-les, ils sont étrangers, Seigneur. On n'a pas la même couleur. Eh bien, dans le ciel, il y aura des gens de toutes nations. Et si tu n'es pas d'accord, mais il va y avoir un problème. C'est toi qui ne pourras pas y rentrer. Ce n'est pas les autres. Mais Seigneur, mais je suis timide. Eh bien, le Seigneur guérit de la timidité. Lorsqu'on connaît le Seigneur, qu'on s'approche de lui, il vient quelque chose un jour ou l'autre, on est rempli du Saint-Esprit dans la communion du Père. Parce qu'on a de plus en plus soif de lui quand on le connaît de mieux en mieux. Et si quelqu'un a soif et qu'il s'approche de Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il sera baptisé dans le Saint-Esprit. Avons-nous soif de connaître le Seigneur Jésus? Avons-nous soif de connaître sa puissance qu'il veut nous communiquer, son dynamisme pour pouvoir être des témoins là où il nous conduira? Avons-nous soif de connaître le Seigneur Jésus pour ne pas tomber dans l'orgueil, dans des vanités, dans toutes sortes de choses que le monde nous proposerait et qui nous ferait oublier qu'à côté de nous, quelqu'un peut être dans le besoin, quelqu'un peut être dans la nudité, quelqu'un peut être dans le froid, dans le chaud, quelqu'un peut être dans la maladie, quelqu'un peut être en prison à cause de sa foi, quelqu'un peut être dans un besoin particulier et qu'il a besoin de notre assistance. Est-ce que l'église de Toulouse-Sainte-Anne veut être cette église qui relève ce défi de montrer le visage de Jésus-Christ en prenant soin les uns des autres dans la famille de Dieu, ne serait-ce que ça? Et les autres, à voir l'amour qu'on a les uns pour les autres, sauront que Dieu existe et qu'on a reçu quelque chose de différent. La vie éternelle de Jésus-Christ. Jésus vit en nous parce que ça se voit, parce qu'on s'aime d'un amour qui n'est pas humain, parce qu'on s'aime d'une manière que le monde ne connaît pas et ne peut pas imiter. Le social, c'est bien, mais nous, on ne veut pas faire du social juste. Nous, on veut être plein de l'amour de Jésus-Christ les uns pour les autres, au point que ce soit une joie pour nous d'aller à l'église. Si la voiture tombe en panne, je prends le métro. Si le métro fait grève, je prends le vélo. Et si le vélo crève, je ne sais pas comment je vais. Vous comprenez ? J'extrapole. Bien sûr qu'une femme enceinte ou une maman qui a des enfants, il y a toutes ces situations que je ne veux pas faire, mais qui est prêt à recevoir le zèle, l'amour de Dieu au point que les choses impossibles, il arrive à les faire par la grâce de Dieu? Vous croyez que c'est possible ça? Que Dieu peut faire un miracle, qu'un chrétien passe sur votre route, qui vous voit marcher, qui vous prend avec lui? C'est fait. Déjà des fois, ça a été fait. Et chacun, si on est prêt à ouvrir nos cœurs et dire « Seigneur, je réalise que la vie éternelle que je connais, cette vie soi-disant éternelle, cette qualité de vie que je crois avoir, ben finalement, j'en goûte un petit peu, mais je ne l'ai pas en abondance en moi. » Puisque Jésus va dire « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans Jean 10:10. Je veux qu'elle l'ait en abondance. Et je vous relis le texte de tout à l'heure. Quelle est la demande du Seigneur Jésus? Quelle est son attente? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas croire que ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils le méritent. C'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne. L'or et l'argent lui appartiennent. Moi non, c'est la dîme qui lui appartient. Non, les 100% lui appartiennent et il dit voilà, je te confie mes biens, tu es mon gérant, je te laisse 90% et je prends que 10%. C'est ça la vérité. Recommande aux riches du présent siècle présent à ne pas être orgueilleux et à ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ils s'assureront ainsi, je le lis dans une autre traduction, Summer, ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. Parce que le mot « vie », là, c'est le mot « zoé », c'est-à-dire la vie de Dieu, cette qualité de vie qu'on ne peut pas obtenir dans le monde et que seul Dieu, au travers de son Fils Jésus, nous communique par l'action du Saint-Esprit et par sa parole. Sommes-nous prêts à recevoir de cette vie ou est-ce qu'on va dire « Ah, si j'étais riche, si j'avais un peu plus, je pourrais mieux faire. Ah, si j'étais riche, etc. » Est-ce qu'on va attendre d'avoir plus pour honorer le Seigneur, honorer sa parole, lui obéir, lui faire confiance? Et je ne veux mettre aucune culpabilité. Vous avez bien compris, je ne parle pas de dîme et d'offrande. D'ailleurs, quand on enseigne la dîme comme ça, on se trompe. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a la dîme, il y a la dîme des revenus. Il y a la dîme, il y a aussi une autre dîme qui est pour les Lévites. Et il y a une autre dîme pour les pauvres, je crois. Il y a trois choses. La maison des trésors, il y a le sacerdoce et il y a aussi 10% tous les trois ans pour les pauvres qu'on invite. Donc en tout, ça fait 23,5% par an dans la parole de Dieu. Mais on n'est pas là pour calculer. C'est stupide de calculer, de dire « moi c'est 10%, moi c'est 9, moi c'est 11, je suis plus spirituel parce que j'ai donné 11 ce mois-ci. » Qu'est-ce que ça fait là? Il y a ce qu'on donne au Seigneur directement, mais il y a aussi la générosité qu'on va avoir les uns pour les autres. L'accueil, ce partage, ce cœur pour les autres, pas juste penser à soi, mais pensez aussi aux autres. Vous avez vu? C'est facile de dire Sodome et Gomorre, hein. Eux, ils sont en homosexualité, moi, j'y suis pas. Et quand j'ai pensé à ça cette nuit, j'ai dit, mais Jérémie, grandis dans le Seigneur. Ouvre ton cœur à Jésus, qu'il vienne mettre de sa vie, que sa vie puisse découler en toi au point que toi-même, tu sois plein de générosité, que tu sois plein d'amour pour les autres, mais d'amour manifeste, pas juste secret dans le cœur, d'amour manifeste. Et peut-être l'assistance que vous allez à donner à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas du vêtement, ce n'est pas tout ça, c'est juste dire, écoute, je viens te voir. Pourquoi, tu as quelque chose à me demander? Non, je viens te voir. On connaît les enfants, hein. Les enfants, ils sont là. Papa, j'ai bien travaillé à l'école. Ah, c'est bien. Est-ce que je peux faire ci ou est-ce que je peux avoir ça? Mon fils, il a 4 ans. Ou 4 ans et demi, je ne sais plus. 4 ans passés. On l'a fêté, son 4... ah, c'était en février, le 24 février, je m'en souviens. 4 ans. Chaque fois qu'il quitte l'école, il dit, papa, j'étais sage à l'école. Je dis, oui, c'est très bien, mon fils. La maîtresse, elle a dit que j'étais sage à l'école. C'est très bien. Parce que des fois, il s'est fait corriger puisqu'il n'a pas été sage. Alors, il dit, j'étais très sage. Oui, d'accord, je peux avoir un chocolat. C'est pour ça. On le comprend. C'est un plaisir aussi de récompenser les enfants. Mais non, on ne veut pas juste venir voir mon frère, ma soeur, parce que j'ai besoin de lui. On ne veut pas juste visiter. Jésus a parlé des visites. On ne veut pas juste visiter parce que c'est un devoir non plus. Mais avoir ce cœur, le cœur de Jésus-Christ, qui déborde en action, et qui fait que tous, on peut en bénéficier les uns les autres. On remercie le Seigneur. Seigneur, merci de nous apprendre encore ce matin, et de nous rappeler que nous sommes vraiment riches. Et tu nous as fait cette grâce d'être dans un pays, c'est vrai, où on fait partie des personnes les plus riches de la planète. On ne veut pas être ingrat, on ne veut pas passer à côté de tout cela, ne pas être reconnaissant. Et en même temps, on veut réaliser que la vraie richesse, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et que ces biens que tu nous as confiés, ils sont là pour qu'on en jouisse, mais aussi pour qu'on ait de la générosité, pour que ça déborde sur les autres, sur mon frère, ma sœur qui est peut-être dans le besoin, sur quelqu'un que tu me conduiras et que tu me demanderas de recueillir. Accorde-nous la sagesse pour le faire bien et pour être préservé aussi, Seigneur, mais donne-nous aussi surtout ce cœur riche de la vie éternelle, cette qualité de vie qui vient de toi et qui vient lorsque tu viens dans notre cœur habité, suite à une vraie repentance et une vraie conversion. Que ton nom soit béni, Seigneur, de faire l'église de Sainte-Agne, eh bien une église où les membres sont généreux, non pas les membres sur le papier, mais les membres de ton royaume réellement, qu'ils soient généreux, qu'ils soient riches en action. Et nous ne croyons pas à la prospérité, qui, comme il est prêché dernièrement, avec « plus je donne, plus je suis riche », mais simplement « plus je donne, plus je suis heureux de l'avoir fait ». Parce que simplement, je t'ai obéi. Et si tu veux me bénir encore, je sais que tu le feras et rien ne t'en empêchera si je ne fais aucun obstacle. Alors merci de nous donner toutes choses, de pourvoir nos besoins. Merci de nous avoir donné plusieurs vêtements, de nous avoir donné une voiture peut-être, ou une église en tout cas qui est chauffée, un toit sur notre tête. Et si quelqu'un en manquait ce matin, ou lorsqu'il pourra partager ce qui a été dit ce matin, bien que tu puisses le bénir et pourvoir à ses besoins. Et nous-mêmes, tu nous conduis vers lui ou vers elle, afin que nous puissions discerner son besoin et participer, l'assister, comme tu nous donneras de le faire dans ta grâce. Que ton nom soit glorifié, toi qui es venu nous assister dans nos incapacités, en nous donnant la vie éternelle. Amen.